Merci pour cet exposé et merci pour avoir tenu le temps. Je passe maintenant la parole donc à Thierry Verdier qui va nous parler aussi de crise et mondialisation, mais en même temps la mondialisation dans une perspective plus longue. Thierry.
Bonjour. Alors, j'aimerais d'abord tout à fait exprimer mon plaisir à être ici présent dans ces journées de l'économie. Peut-être que quelque part, il a été mentionné dans la première séance le Festival d'économie de Trent. Peut-être que je suis un des éléments, le chaînon liant peut-être ces deux manifestations, car en juin dernier, Tito Boeri m'avait invité aussi à participer à ce festival donc, de Trent, où la beauté des théâtres italiens égalise certainement celle du théâtre lyonnais. Donc presque. Enfin, on ne va pas non plus avoir un sentiment trop chauviniste, d'autant plus que je vais parler de problèmes liés réellement à des questions de mondialisation. Donc je suis vraiment très heureux de pouvoir voir qu'il y a un intérêt accru aux questions économiques et la curiosité à la fois du côté du grand public et des économistes à échanger sur ces questions importantes. Alors, ma présentation va tourner autour d'une question qui peut-être a été un peu moins débattue dans la presse ou qui a peut-être un peu moins été débattue dans la perception publique. On a beaucoup parlé de la crise financière, on a beaucoup parlé de la crise économique qui est en train de se dérouler devant nous, des impacts sur le chômage. On a peut-être moins perçu à même moment ce qui se passait, c'est-à-dire un phénomène absolument extraordinaire d'effondrement du commerce mondial pendant l'année qui est l'année 2008 et le milieu de l'année 2009. Et ceci a des implications qui, peut-être dans la période courte, ne sont pas excessivement importantes, mais reflètent, à mon avis, en toile de fond, des craintes et des anxiétés et des tensions beaucoup plus fortes sur les implications de la nouvelle division internationale du travail et des implications qu'elle pourra avoir sur nos systèmes sociaux et sur nos structures sociales, notamment dans un contexte où, évidemment, on ne sort pas rapidement de la crise économique. Alors, pourquoi s'intéresser à l'effondrement du commerce mondial ? Ben, les économistes, eux, l'ont débattu et continuent à l'en débattre actuellement, parce que, premièrement, évidemment, c'est un vecteur de transmission internationale des chocs, et puis, deuxièmement, parce que, clairement, on a tous en tête les réminiscences historiques de la Grande Dépression des années 30, avec le commerce mondial qui s'est écroulé et les conséquences désastreuses que ceci a entraîné après dans le XXe siècle. Alors là, juste pour montrer que cet effondrement du commerce contemporain n'est pas négligeable et totalement significatif. J'ai reproduit juste une étude qui a été faite par des historiens économiques, Aishen Green et Kevin O'Rourke, et qui essaye de comparer l'effondrement du commerce mondial à partir du moment de la crise sur les mois qui ont suivi donc le pic de la crise. Et ce que l'on voit, c'est qu'évidemment en rouge, l'effondrement du commerce mondial est très largement supérieur à celui qui a été vécu dans les années 30, même si la petite partie en vert nous laisse espérer un certain optimisme. Cet effondrement du commerce mondial a eu deux caractéristiques essentielles. Premièrement, une surréaction des volumes et des flux de commerce internationaux par rapport à la contraction de l'activité économique des pays de l'OCDE. Et puis deuxièmement, un effet de synchronisation formidable entre les différents pays du monde par rapport à cet effondrement. Alors au niveau de la surréaction, lorsqu'on regarde simplement les variations en glissement annuel des derniers trimestres de l'année 2008 et 2009, on voit que le volume du commerce mondial a diminué de l'ordre de 26 à 30%, alors que l'activité économique, elle, est diminuée de l'ordre de 7 à 8%. Donc, réellement, une démultiplication de la contraction de l'activité économique sur les flux de commerce mondiaux. Ceci reflète ce que les économistes appellent, en fait, une forme de plus grande sensibilité du commerce mondial au revenu mondial. La façon dont les économistes mesurent ceci, c'est à travers une mesure d'élasticité du commerce mondial au revenu mondial. Et l'on voit qu'entre les années 60 et 2000, cet indicateur de sensibilité a sensiblement augmenté. Un autre élément qui aussi explique ceci, cette démultiplication des effets de la contraction économique sur le commerce, c'est le fait que le commerce est plus sensible aux revenus dans les périodes de crise et de turbulence que dans les périodes de tranquillité. La synchronisation de l'effondrement, elle est ici illustrée par ce graphique qui a été construit par des économistes de l'OCDE, Sonia Rojo et Olivia Martins, et qui montre le pourcentage de pays de l'OCDE qui ont vécu une croissance négative de leurs exportations en glissement annuel sur des données mensuelles. Et ce que l'on voit là en rouge, eh bien, c'est le phénomène récent. 90% des pays de l'OCDE ont vécu une diminution de plus de 10% de leur commerce dans cette période. Donc une synchronisation formidable. Ceci est un graphique sur les exportations, mais sur les importations, vous auriez exactement la même image qui en ressort. Alors, qu'est-ce qui explique les causes de cet effondrement surajusté et synchronisé du commerce mondial? Il y a évidemment des effets directs qui sont liés aux sources profondes, enfin aux sources initiales plutôt de la crise que nous avons vécue, à savoir la crise financière, et donc un assèchement du crédit, et notamment un assèchement du crédit au commerce, crédit à l'exportation et aux importations qui, on sait bien, favorisent et fluidifient les flux de commerce. Mais il y a aussi peut-être des explications qui sont liées à des évolutions plus structurelles.
Je parle trop près. Okay. Des évolutions plus structurelles. Et là, c'est trop long.
Il faut que j'arrive à trouver la bonne distance. Comme j'ai une tendinite au coude, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Là, ça va ? Bon. Donc, des évolutions plus structurelles de la division internationale du commerce, du travail. Et parmi celles-ci, eh bien évidemment, ce qui est le plus frappant, c'est l'augmentation de la spécialisation verticale de la production, c'est-à-dire l'augmentation du découpage de la chaîne de valeur ajoutée dans le monde. On saucissonne de plus en plus notre ligne de production, essayant d'exploiter au maximum les coûts de production différenciés entre pays et régions, et aussi les avantages comparatifs, comme disent les économistes, des différents facteurs de production. Et ça, ceci a pu augmenter en fait la synchronisation. Clairement, si dans un pays on a un choc, et que maintenant plus de pays sont concernés, eh bien la synchronisation de la division internationale du travail va entraîner une diminution beaucoup plus immédiate et simultanée des flux de commerce entre les pays. Le surajustement, lui aussi, peut en partie être expliqué par cette évolution structurelle, parce que si au cours des crises et de périodes d'incertitude, les entreprises tendent à réorganiser leur ligne de production internationale, comme par exemple, je mentionne ici l'exemple de Porsche qui a réduit ses activités en Finlande tout en maintenant ses activités en Allemagne, eh bien clairement ceci va affecter davantage, plus que proportionnellement, les flux de commerce par rapport à l'activité économique. Il peut y avoir aussi des interactions liées aux effets directs que je mentionne d'assèchement du crédit et de la structure même du commerce international, comme le fait que, eh bien, dans une période encore d'incertitude, les entreprises préfèrent se reporter sur leurs fournisseurs domestiques plutôt que d'aller chercher leurs biens intermédiaires, leurs inputs sur les fournisseurs plus éloignés et peut-être plus efficaces, mais certainement demandant plus de financement. Alors, le troisième élément, évidemment, qui est sous-jacent toujours dans l'esprit des gens lorsqu'on voit un effondrement du commerce mondial, c'est le spectre. Nous sommes en train de parler des démons de la crise, mais du point de vue de l'internationaliste, c'est le spectre du protectionnisme. Le spectre du protectionnisme, évidemment, les leaders du G20 en ont tout de suite eu conscience, puisqu'ils ont immédiatement avancé des engagements comme quoi ils n'allaient pas rentrer dans la même dynamique que celle que nous avions vécue dans les années 30, d'essayer d'avoir une relance domestique sans rentrer dans une spirale protectionniste. Néanmoins, il semble bien qu'il y a une montée d'une certaine forme ou de certaines incitations à un protectionnisme larvé. Récemment, des économistes, Richard Baldwin et Simon Evenet, ont souligné ce fait. Cette montée du protectionnisme peut venir de l'application de droits de douane, mais de façon peut-être plus pernicieuse aussi, elle peut être inscrite dans des mesures qui, elles, ne n'attaquent pas directement le commerce international, mais on peut avoir néanmoins des effets distorsifs sur ou discriminatoires entre producteurs nationaux et producteurs internationaux. Là, je mentionne évidemment le Buy American Act, les plans de sauvetage et de soutien à l'industrie nationale automobile qui, clairement, vont avoir des effets sur la concurrence mondiale, les directives chinoises sur les réglementations de marché public qui favorisent davantage les producteurs domestiques que les producteurs internationaux, les réglementations vertes qui, elles aussi, peuvent avoir des effets distorsifs entre pays du Nord et pays du Sud. Dans une initiative qui a été créée à cette instance, le Global Trade Alert, aux dates de septembre 2009, il a été recensé 125 mesures, dont 86 qui peuvent être classifiées comme étant fortement nocives pour le commerce international. La classification boîte rouge, en fait, relève de l'OMC qui, par analogie au feu vert, feu orange, feu rouge, tend à classifier les mesures qui sont plus ou moins affectant le commerce international. Évidemment, jusqu'à présent, ceci n'explique pas l'effondrement formidable que nous avons observé du commerce mondial, puisque ces quelques mesures ne touchent au plus que 10% des lignes de biens échangées dans le commerce mondial. Mais néanmoins, elles génèrent des inquiétudes. Elles génèrent des inquiétudes parce que certaines d'entre elles ont été appliquées justement par des pays du G20 qui se sont engagés à ne pas rentrer dans une spirale protectionniste. En particulier, une mesure qui souvent est un symptôme d'incitation forte au protectionnisme, ce sont les mesures anti-dumping, le nombre de cas anti-dumping qui ont été déclenchés dans l'année 2008. Et ce que l'on voit, c'est que la tendance a été très largement inversée. Alors que le taux de croissance des cas d'anti-dumping était négatif dans la période avant 2008, il redevient positif récemment. Ce protectionnisme larvé, évidemment, induit des inquiétudes parce qu'il est moins transparent que les droits de douane, il est plus ciblé, plus discriminant, et qu'il peut, évidemment, si la crise perdure et que le chômage stagne, eh bien, on risque d'entraîner une forme de déraillement dans cette dimension. D'une façon générale, ces inquiétudes soulignent en toile de fond la question fondamentale sur laquelle maintenant je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse, de la soutenabilité ou de l'acceptabilité de la nouvelle division internationale du travail et dans un contexte de crise, quels sont les facteurs qui peuvent en fait nous faire passer d'une crise financière et économique à plus tard à une crise sociale. Alors je vais très rapidement d'abord faire une digression conceptuelle sur l'intégration mondiale. Et puis rappeler deux éléments essentiels, je pense qu'on a tous à l'esprit du contexte actuel, et puis rentrer ensuite peut-être un peu plus spécifiquement sur l'impact de la nouvelle division internationale du travail sur nos sociétés, sur la fracture sociale, et notamment qu'elles peuvent être aussi fruits d'anxiété et génération d'angoisse ou de perceptions subjectives dans la mondialisation. Et puis enfin, je conclurai avec des éléments d'économie politique et de politique économique qui seraient un peu, en déclinant ces conclusions sur la division internationale du travail. Nous avons, en première séance, abordé l'idée que la politique devenait moins importante que l'économique, au moins dans la perception des Français. J'aimerais quand même rétablir un fait qu'un processus d'intégration mondiale dépend de deux types de facteurs. Un qui est clairement de bénéficier d'avancées technologiques comme baisse des coûts de transport, amélioration des moyens de communication et de coordination de la production et de la consommation, mais aussi fondamentalement un processus d'intégration mondiale. C'est un processus qui est basé sur une certaine volonté politique d'aller vers l'avant et qu'il y a donc toujours une capacité de réversibilité qui peut parfois se manifester par des épisodes tragiques comme ceux que l'on a vécu après les années 30. Donc, quelques digressions conceptuelles. Les économistes, évidemment, tendent à persuader le public que l'intégration mondiale n'est pas quelque chose de mauvais, qu'il y a des gains du commerce, ce que j'appelle ici les douceurs du commerce. Nous avons un certain nombre de friandises qui peuvent apparaître lorsqu'on échange avec le reste du monde. Ces friandises apparaissent aussi bien comme des bonbons de la consommation, à savoir on achète des produits moins chers, plus variés, plus diversifiés, de meilleure qualité ou mieux adaptés à nos besoins. Et évidemment, ils se produisent aussi au niveau de la production. Ce sont les fameux gains classiques d'efficacité liés à la spécialisation, le bénéfice des économies d'échelle, d'avoir accès à des marchés larges et importants, et des effets de concurrence et de sélection, à savoir que très souvent, ce sont les entreprises les plus productives et les meilleures placées qui exportent à l'étranger. Donc, des gains de productivité, d'innovation et de croissance, ceci, c'est évidemment tout ce que la mondialisation apporte dans la corbeille du monde, du côté des cookies, du côté des petits bonbons. Maintenant, évidemment, il y a aussi l'autre côté, certaines pilules qui ont un certain goût d'amertume. Et c'est plutôt celle-là que le grand public a en tête souvent quand il, manifeste dans des démonstrations, enfin dans des manifestations anti-globalisation, celles qu'on appelle les peines du commerce. Les économistes en sont aussi assez conscients, puisque ce qui est en sous-jacent à cela, c'est réellement le partage des gains du commerce et qui gagne et qui perd au commerce international. Et là, ça peut être les gagnants et perdants entre pays. Certains pays peuvent gagner plus que d'autres, certains pays peuvent même perdre au sein des pays, entre différents types de travailleurs, entre différents types d'individus possédant des facteurs de production plus ou moins favorisés par la mondialisation. Il y a aussi des coûts d'ajustement, et notamment, bien sûr, le focus essentiel se met sur le marché du travail et l'ajustement sur l'emploi et les salaires. Et puis, la mondialisation, c'est quand même l'intégration de marché, c'est la concurrence entre différents acteurs privés. Et donc, ceci peut entraîner un décalage de plus en plus grand entre, d'un côté, le fonctionnement de marché et les modes de régulation de l'État, et un sentiment de perte ou une réalité de perte de souveraineté publique pour pouvoir réagir aux effets potentiellement négatifs de cette mondialisation. Alors, maintenant, deux éléments majeurs du contexte actuel permettent de recentrer un petit peu peut-être cette toile de fond de la nouvelle division internationale du travail. Le premier, je n'ai pas la peine de l'expliquer plus longtemps, c'est le retour de l'Asie dans la sphère mondiale. La dérive des continents est claire. L'Asie est en train de monter et essentiellement elle monte bien sûr grâce au formidable rattrapage de la Chine et maintenant de réveil de l'Inde. Le deuxième, c'est que ce continent asiatique, en fait, a une insertion internationale qui se manifeste dans les biens manufacturés. La Chine est l'atelier mondial de la production industrielle. L'Inde devient maintenant aussi l'atelier mondial, mais du côté des services, avec ici la structure d'avantage comparé que j'ai extrait donc du CEPI et qui montre clairement que la différenciation d'insertion mondiale, la Chine avec un avantage très fort dans le domaine industriel et l'Inde avec un réveil qui se manifeste essentiellement sur les services. Ceci a des implications avec le deuxième élément lié à l'évolution de la division internationale du travail, qui est ce que j'ai déjà mentionné par rapport à la crise, à savoir le découplage de la production. La production devient de plus en plus multinationalisée, de plus en plus fragmentée. 2/3 du commerce mondial implique une multinationale. 1/3 du commerce mondial se fait à l'intérieur des multinationales. L'élément fondamental, c'est que cette multinationalisation se fait avec une fragmentation de plus en plus fine des tâches de production. Les tranches de saucisson deviennent de plus en plus fines et de plus en plus détaillées au niveau de où localiser différentes activités de production dans le monde. Le troisième élément, c'est grâce aux évolutions technologiques, des technologies de communication, on a énormément amélioré les capacités de coordination et de standardisation des tâches, et donc l'échangeabilité des services devient un enjeu crucial, d'autant plus crucial que justement un des deux géants se réveille avec une insertion mondiale qui va de plus en plus dans ce sens, et que l'on le sait bien, les services dans l'économie nationale représentent pour les pays industrialisés une part bien plus prépondérante que l'industrie en termes d'emploi, en termes d'activité. Alors maintenant, quelles sont les implications de ceci par rapport à notre capacité à résister et les implications en termes d'impact social? Dans les années 90, les économistes ont longtemps débattu sur l'impact du commerce pour essayer d'expliquer la montée des inégalités salariales qui ont été observées à partir du milieu des années 80 dans le monde occidental. Et en fait, la question qui était sous-jacente était la question, nos salaires sont-ils fixés quelque part en Chine ou dans un pays du Sud, avec l'idée sous-jacente que même si on n'a pas les Chinois qui immigrent chez nous, eh bien le fait d'acheter des t-shirts chinois, ça revient grosso modo à la même chose du point de vue du fonctionnement de notre marché de travail. On n'achète pas le travail chinois directement, on achète le travail chinois indirectement à travers les biens qui y sont échangés avec nous. Et que ceci peut entraîner des inégalités salariales significatives entre, évidemment, les qualifiés et les non-qualifiés dans nos industries, dans nos sociétés industrielles. Les conclusions ont été plutôt mitigées. La plupart des économistes s'entendent à dire que de l'ordre de 15 à 20% de l'augmentation des inégalités salariales de l'époque aurait pu être expliquée par le commerce international. La question a changé dans les années 2000 et peut-être qu'elle changera encore dans le futur. La question va être maintenant qui va ou qui plutôt peut-être délocalisé. Qui va, là encore, les économistes pensent que l'effet actuel est marginal. Peut-être, c'est déjà moins clair, d'autant plus que l'on a en tête, si l'on extrapole les évolutions dynamiques de l'insertion de la Chine et de l'Inde. Le paradigme est un nouveau paradigme qui est lié à celui de la spécialisation verticale de la production, qui est que l'un de plus en plus de fragmentation des tâches. Ça a été illustré très récemment par deux économistes internationalistes de l'université de Princeton, Jim Grossman et Rossi Amberg. Et ils, essentiellement, nous amènent à réfléchir sur comment le saucissonnage a des effets plus ou moins différenciés sur les emplois dans le Nord et dans le Sud. Et là, des effets positifs, des effets de productivité. Si en effet on saucissonne de plus en plus les tâches, nous allons nous concentrer sur les tâches les plus productives de notre point de vue, où on a un avantage comparatif, et laisser les autres aux pays du Sud. Et donc ceci est équivalent à un gain de productivité du point de vue de la technologie de production. De l'autre côté, bien évidemment, les malheureux qui auront été saucissonnés et qui n'auront pas été utilisés dans le Nord vont perdre leur emploi et vont se trouver dans une situation plus précaire. Et les questions sont, est-ce que ces effets sont différenciés entre qualifiés et non qualifiés? Est-ce que les délocalisations de ce type-là, de ce saucissonnage, a des effets différenciés quand il s'agit de délocaliser vers d'autres pays du Nord ou vers des pays du Sud? Les réponses ne sont pas claires encore. Des études récentes montrent, par exemple, en Allemagne, qu'en effet, la délocalisation tant avoir un effet négatif sur le salaire des moins qualifiés, tant avoir un effet positif sur le salaire des plus qualifiés. Des études récentes aussi aux États-Unis tendent à montrer que le travail américain est complémentaire du travail à l'étranger quand il s'agit de délocalisation nord-nord, mais qu'il est substitut, et donc ce n'est pas très bon pour lui quand il s'agit de délocalisation nord-sud. Donc, des implications qui ne sont pas nécessairement très réjouissantes du point de vue des travailleurs du Nord. Aux États-Unis, la discussion est même tournée à un point avec une certaine frayeur qui a été lancée par l'économiste Alan Blinder, encore un économiste de Princeton, où, en regardant les emplois potentiellement menacés, eh bien de l'ordre à 40 millions d'emplois, soit à peu près 30% des emplois américains, pourraient être délocalisables. Et le point important, c'est que ces menaces de délocalisation n'est pas nécessairement corrélée à nos idées de qualification, c'est-à-dire ce n'est pas nécessairement les plus basses qualifications ou les plus hautes qualifications qui pourraient être délocalisées. Alors ceci, en fait, est lié à une question plus fondamentale, c'est que si tant d'emplois pourraient être potentiellement délocalisables, c'est parce qu'on peut se poser la question de la croissance, de l'échangeabilité des services et de l'effet distance qui nous protège partiellement, généralement, de la délocalisation des services. Et là, la question est celle un peu qui a été mentionnée dans un livre célèbre de Thomas Friedman, « Le monde est-il plat ?» À savoir, est-ce que le monde, finalement, n'a plus aucune aspérité et que l'on est plus protégé, nos emplois ne sont plus protégés par l'effet distance? Et des travaux récents tendent à montrer que si, dans les années 90, les services étaient encore nettement plus protégés que les biens manufacturés, aujourd'hui, les effets distance sont du même ordre. Et donc, si la tendance continue, eh bien, peut-être bien que les prophéties d'Alan Blinder pourraient se réaliser. L'autre élément, c'est que ce qu'il compte pour le partage de la rente, et donc le partage du gâteau de la mondialisation, ce n'est pas seulement la concurrence observée par les économistes, les délocalisations observées, mais la concurrence potentielle. Ceci se manifeste par le partage peut être de plus en plus affecté par une sensibilité de l'emploi au salaire et un basculement des pouvoirs de négociation des facteurs ou des travailleurs plus fixes vers les travailleurs ou les facteurs plus mobiles. Alors, ceci a des implications, et notamment des implications aussi en termes de perception subjective qui ne sont pas négligeables pour comprendre l'économie politique sous-jacente de cette mondialisation. Tout d'abord, le loto de la mondialisation. Qui va gagner, qui va perdre, devient beaucoup moins prévisible, beaucoup plus soudain, beaucoup plus individualisé. Bien sûr, parce que comme il risque de rentrer dans les services, les effets sont potentiellement plus larges, plus diversifiés, et la concurrence est plus fine. Elle se fait au niveau des tâches. Elle ne se fait plus entre secteurs, elle ne se fait plus entre firmes, elle se fait entre tâches. Et donc, clairement là, les questions deviennent de plus en plus aléatoires, au moins en termes de perception. Les implications, eh bien, les économistes généralement n'aiment pas regarder de trop près les questions de perception subjective. Ce sont un peu des symptômes. Ils aiment bien toucher ce qu'ils voient. Mais néanmoins, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des politiques, les perceptions peuvent avoir des implications non négligeables. Et maintenant, on s'y intéresse un peu plus. Et notamment, ce qu'il est ressorti, c'est qu'il se peut bien qu'en effet, ce risque accru, perçu, que l'on peut être maintenant n'importe qui touché par le choc de mondialisation, en fait génère une augmentation de stress, une augmentation de dissatisfaction, d'insatisfaction par rapport à nos emplois. Ça, des économistes l'ont regardé pour les travailleurs anglais dans la période 91-99, où ils montrent qu'en fait, les travailleurs, en contrôlant pour d'autres facteurs qui évidemment peuvent expliquer ces effets, mais que les travailleurs anglais qui travaillent dans des secteurs plus multinationalisés, où il y a plus de multinationales, eh bien, se sentent moins satisfaits de leur travail, se sentent plus stressés et plus anxieux du futur de leur travail, même si actuellement, évidemment, leur travail n'a pas été délocalisé. Alors, les implications, économie politique et politique économique, zéro. En termes d'économie politique, cette nouvelle division du travail implique une reformulation des coalitions politiques en faveur du commerce ou protectionnistes. On va maintenant aller au-delà des traditionnelles oppositions sectorielles, textile versus high-tech, ou les traditionnelles oppositions factorielles, travail qualifié versus travail non qualifié. La délocalisation va se faire en plus avec de plus en plus de fragmentation, et donc, d'un côté, les entreprises qui, au départ, pouvaient être opposées au commerce, peuvent maintenant être en faveur du commerce, parce que simplement, elles ont changé leur mode de production de telle sorte à importer de plus en plus d'inputs du reste du monde. Le deuxième élément, c'est que cette démocratisation des risques sur les individus, eh bien, va augmenter la perception d'incertitude et d'anxiété. Et donc, quelque part, maintenant, ce ne sera plus « Ah, ce sont ces travailleurs du Nord dans l'industrie du textile qui sont touchés ». Non, ça peut être n'importe qui, aussi bien dans la banque que dans l'industrie manufacturière, que dans... peut-être les services, pas de proximité, mais les services médicaux. Les tâches maintenant deviennent de plus en plus affinées, coupées, et donc les risques démultipliés potentiellement au sein des individus. Le deuxième élément, c'est que, bien évidemment, l'évolution des continents nous amène à voir le monde comme changeant vers une forme de multipolarité. C'est la fin des hégémonies, nous n'avons plus d'hégémonie américaine, et la montée de nouvelles puissances. Et ça, on sait bien historiquement que quand nous avons une montée de nouvelles puissances, un déclin d'hégémonie, les périodes de transition ne sont pas toujours faciles à gérer. On l'a déjà vécu dans l'histoire. Alors, les implications en termes de politique économique, au niveau des individus, cette imprévisibilité et augmentation de l'instabilité de la concurrence mondiale sur les individus va certainement nous amener à repenser de façon fondamentale nos programmes d'aide. Il va falloir changer notre perception. Moins sur les secteurs et sur les entreprises, plus sur les individus. Ce qu'il va falloir essayer de penser, ce n'est plus des emplois à vie, mais des emplois, un degré d'employabilité de nos travailleurs, et une capacité de flexibilité. Ce n'est pas facile parce que, au lieu d'apprendre des qualifications, au lieu de promouvoir et de subventionner des qualifications envers nouvelles technologies, sociétés d'information, il va falloir apprendre à apprendre pour pouvoir être capable de réagir, étant donné que l'on ne sait pas dans 20 ans, dans 30 ans, dans 5 ans, si telle tâche qui actuellement n'est pas délocalisable ne le sera pas dans le futur. Au niveau global, Clairement, la nouvelle division internationale du travail, avec cette spécialisation verticale d'autant plus importante, nous a amené à plus d'interdépendance et plus de synchronisation. Synchronisation des cycles des affaires et des chocs, et donc un besoin d'autant plus grand de coordination. D'un point de vue plus structurel, il nous faudra bien sûr, là encore, gérer la multipolarité. Et cela revient un peu à la conclusion de François Bourguignon de tout à l'heure, qui est que, quelque part, on ne pourra gérer de façon pacifique cette transition de la nouvelle division internationale du travail qu'à partir d'institutions qui pourront prendre dans toute leur globalité ce problème important.
Merci Thierry pour avoir élargi considérablement le débat. C'est pas jusqu'au point où Daniel l'avait d'abord élargi au départ, mais quand même. Alors.